m'a prévenu que je ne devais omettre aucune précision, mais au contraire, fournir les moindres détails. Chaque fois qu'il pourrait contribuer à faire mieux comprendre les aspects particuliers de la personnalité même dont je parle, ainsi que le genre de passion qui est sienne. Je ne crois pas n'avoir rien négligé qui...
Pourtant, je vais vous donner un exemple. J'ignore totalement quelle était la dimension du pénis de ce professeur. J'ignore totalement quel était son type d'éjaculation. Et je ne sais pas non plus si vous avez touché ses organes génitaux ou s'il vous a forcé à les prendre dans votre main. Je vous en prie, chère madame Vaccari, un peu plus de clarté.
Je vous demande pardon et je vous promets que désormais je vais être prodigue de détails. Puis-je continuer ?
Un instant. Un instant, messieurs. Juste le temps de lui faire goûter le bâton de ma vieillesse.
Un extrait de Salo ou les 120 journées de Sodome, un extrait du film de Pier Paolo Pasolini, film de 75, Annie Lebrun, un film qui sera projeté le 22 novembre prochain à 19h hein, au musée d'Orsay, parce qu'en marge de l'exposition, il y a toute une série de manifestations, notamment un cycle de cinéma, oui. Avec des œuvres directement inspirées de Sade, et puis des œuvres de cinéastes qui ont été influencées aussi. C'est le même genre d'influence que pour les peintres, ou bien c'est au contraire beaucoup plus franc du collier, si j'ose dire?
Non, je pense que c'est le même genre d'influence, c'est-à-dire c'est la façon dont Sade a travaillé en profondeur la sensibilité. Alors effectivement, il y a des illustrations littérales, enfin un désir d'illustration littérale, et en particulier c'était important de montrer le salaud de Pasolini, bien que à mon sens ce soit un contresens profond. Parce que dans la mesure où, justement, Pasolini raccroche le propos sadien à une réalité historique qui est ce qui est impossible. Et là, en l'occurrence, cette réalité historique-là, alors que ça met en cause, justement, tous les ordres sociaux.
Cette aspiration cinématographique, elle va aussi au-delà de l'Occident. Par exemple, vous projetez le film d'Oshima, hein, L'Empire des Sens,
oui.
Qui avait fait évidemment scandale aussi à l'époque. Il y a une vraie filiation là aussi. Donc ça jusqu'à l'Extrême-Orient.
Oui, et là, ça a eu une grande influence. Et on pense aussi, on sait l'influence que ça a eu sur Mishima, sur ce qu'il a, sur son œuvre même. Et puis aussi, il faut signaler l'extraordinaire pièce parmi les évocations réussies de Sade. Il me semble que la pièce de Mishima, Madame de Sade, est extraordinaire, justement qui tourne autour du personnage.
Benjamin Lazare, on parlait tout à l'heure de la question de la représentation hein, des œuvres de Sade. Vous qui êtes précisément dans le spectacle vivant, alors dans le théâtre plus que dans le cinéma, mais dans le spectacle visuel également, est-ce que représenter Sade, c'est un défi qui vous semble difficile?
Oui, c'est un défi incontestablement. Sade, en général, donne lieu à des lectures solitaires. Je pense que tous ceux qui ont lu Sade se souviennent de la première fois qu'ils ont eu un ouvrage de Sade entre les mains. Selon l'âge, c'était plus ou moins permis, c'était un accès plus ou moins caché. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans une bibliothèque? Est-ce qu'ils l'ont trouvé en librairie? En tout cas, on s'en souvient.
Oui.
Et en général, cette lecture se fait silencieusement parce que c'est dans cette intimité-là que se déploie, comme l'a dit Annie tout à l'heure, ce théâtre. Ce théâtre plus qui va plus loin que le théâtre qu'il pratiquait par ailleurs, étant lui-même comédien, chanteur et ayant employé des comédiens ou mis en scène des spectacles, comme ça a été rappelé.
Alors vous allez participer, vous avez déjà commencé, hein, puisque le cycle est en cours, un cycle de lecture au musée d'Orsay. Là, on n'est pas du tout dans la lecture intime, hein, puisque c'est au contraire une lecture publique. On va y venir dans un instant. Vous allez nous raconter comment le public précisément réagit à vos textes, et vous avez accepté d'en faire profiter nos auditeurs. Benjamin Lazare, vous avez choisi le passage d'une lettre de Sade, une lettre à sa femme de novembre 1783. Où il écrit sur sa façon de penser. On vous écoute.
Ma façon de penser, dites-vous, ne peut être approuvée. Et que m'importe? Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai que je ne le ferai pas. Cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines en prison, elle compose tous mes plaisirs dans le monde, et j'y tiens plus qu'à la vie. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. L'homme raisonnable qui méprise les préjugés des sots devient nécessairement l'ennemi des sots. Il doit s'y attendre et s'en moquer. Un voyageur suit une belle route. On la semait de pièges. Il y tombe. Dites-vous que c'est la faute du voyageur ou du scélérat qui a tendu les pièges? Si donc, comme vous le dites, on met ma liberté au prix du sacrifice de mes principes ou de mes goûts, nous pouvons donc nous dire un éternel adieu. Car je sacrifierais plutôt qu'eux 1000 vies et 1000 libertés si je les avais. Ces principes et ces goûts sont portés par moi jusqu'au fanatisme. Et le fanatisme est l'ouvrage des persécutions de mes tyrans. Plus ils continuent leur vexation, plus ils enracinent mes principes dans mon cœur, et je déclare ouvertement qu'on n'a pas besoin de me jamais parler de liberté si elle ne m'est offerte qu'au prix de leur destruction. Je le dis à vous, je le dirai à Monsieur Lenoir, je le dirai à toute la terre, l'échafaud serait là, que je ne varierai pas.
On voit effectivement la personnalité très très forte du Marquis de Sade, Annie Lebrun, mise en onde, mise en mots, mise en voix par Benjamin Lazare, et merci beaucoup de l'avoir fait évidemment en direct dans VMDN. Sade, malgré les attaques, n'a jamais tressailli. Il est toujours resté sûr de lui, sûr de soi, sûr d'avoir raison aussi, Annie Lebrun.
Je ne sais pas, mais sûr que c'est lui-même, que c'est sa façon de penser. Et ça, c'est un des apports essentiels de Sade. Justement, cette affirmation d'une singularité irréductible qu'il y a en chaque homme. Et avec le courage qui a été le sien, de commencer à penser le monde à partir de ce qui les différencie des autres hommes. Et au moment où toutes les autres personnes qui pensent, les philosophes, eux, au contraire, s'appliquent à penser à partir de ce qui se relie les autres hommes. Toute la fin du XVIIIe siècle, c'est la question du lien social. Or, Sade, à ce moment-là où le lien social devient quelque chose de tout à, comme une sorte d'impératif catégorique, si je puis dire, lui va affirmer envers et contre tout l'irréductible singularité de chacun, et en affirmant qu'elle est liée à la singularité sexuelle.
Alors, pourquoi vous choisissez ce texte-là? Benjamin Lazare, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez un texte plus sulfureux.
Disons que il contient toutes les possibilités de Sade, puisqu'il affirme sa singularité. Mais je pense que il n'est pas possible de dire un extrait de Sade sans contexte. En une minute et demie, on peut pas juste...
Oui, parce que l'exercice était contraint.
On pourrait dire, effectivement, on pourrait trouver un passage absolument terrifiant, très très choquant, mais je pense que ça ne reflèterait pas ce qu'il se passe quand on lit Sade dans la continuité et quand on suit son chemin de pensée. Donc ça serait le trahir que d'en lire un extrait d'une minute et demie comme ça.
Alors au musée d'Orsay, ces lectures sont évidemment beaucoup plus longues. Il y a des extraits de sa philosophie dans le boudoir, de Justine, vous évoquez aussi sûrement Juliette, hein, qui est vraiment une femme très très libre sexuellement. Comment est-ce que ces textes-là, autant que vous le sachiez, sont perçus aujourd'hui par ceux qui viennent vous écouter?
D'abord, c'est une expérience peut-être à risque de lire Sade, de le lire à voix haute, mais en même temps, l'expérience s'imposait parce que Sade est un écrivain extrêmement théâtral, c'est-à-dire extrêmement précis dans ses images. Et si on regarde les 120 journées de Sodome, la façon dont il dresse le décor pour ce qu'il appelle les historiennes qui vont raconter toutes les perversions sexuelles auxquelles elles ont été confrontées dans leur vie, le décor qu'il dresse est un théâtre absolument fabuleux, où les fêtes qu'organise Juliette pour les libertins et dans lesquelles se passent des horreurs absolues, des meurtres, des tortures, etc. Ces descriptions valent les plus belles descriptions des opéras du grand siècle. Donc voilà, c'est d'abord cette dimension-là qui éclate.
Madness Enigma sur RFI, un morceau qui était resté dans les toutes premières places du top 50. C'était en 1990, un énorme succès en France. Je sais pas si vous vous en souvenez, Annie Lebrun. Alors, en tout cas, bon, on est frappé, évidemment, c'est un mélange de sexe et de chant grégorien. Le clip était quand même assez chaud hein, pour l'époque. Et c'est un choix assez curieux quand même, parce qu'il n'y avait pas plus athée que le Marquis de Sade.
Oui.
Alors pourquoi est-ce que quel était le rapport de Dieu avec Sade, et quel était le rapport, c'est intéressant d'ailleurs que la façon dont je pose la question, le rapport de Dieu avec Sade, j'aurais dû vous demander quel est le rapport de Sade avec Dieu, mais c'est intéressant.
En l'occurrence, c'est Dieu qui est mis à mal. C'est Dieu qui est mis à mal parce que vous avez vu que dans le fond, je pense qu'il n'y a pas d'athée plus radical que Sade. Et c'est aussi ce qui fait sa singularité parce que chez lui, il n'y a aucune transcendance, il n'y a la place pour aucune transcendance. Et ça, je pense, ça c'est aussi une des raisons qui a fait que le rapport du 19e siècle avec Sade est un rapport tourmenté.
Oui.
Et qu'il va y avoir, justement, on voit dans la peinture comment à la fois l'influence de ce que déclenche Sade, parce que, comme l'a dit Benjamin, c'est une pensée qui provoque toujours le lecteur. On ne pense jamais à froid chez Sade. Donc il y a toujours une incitation, mais cette incitation-là chez les lecteurs de Sade vont amener à ce qu'on mette en place des dispositifs qui à la fois permettent d'aborder cette radicalité, mais aussi de contenir ça. Je pense en particulier à la façon dont on revisite tous les grands mythes comme Salomé, comme les Judith et la tentation de Saint-Antoine. Parce que à nouveau, et on va arriver aussi au satanisme, qui est une façon de se préserver de Sade, et comme le dit d'ailleurs très bien Huysmans, en définissant le satanisme comme le spiritualisme de la luxure. C'est à nouveau, on réintroduit quelque chose, une transcendance, qui va permettre de contenir le propos.
C'est vrai qu'il y a un côté ange déchu chez Sade, Benjamin Lazare, non ?
Moi, je sais même pas s'il accepterait ce terme.
Non, probablement.
C'est un humain bien là, qui était bien là, oui.
Est-ce que pour vous, c'est un auteur politique également ?
Profondément, oui, oui.
Annie Lebrun.
Ah, oui. Oui, parce que justement, aussi, c'est la conséquence.
Maïsa nous disait tout à l'heure combien de temps il avait passé en prison. Oui. Effectivement, il y avait une dimension extrêmement révoltée chez lui. Oui. Et son intransigeance était aussi, finalement, à pied de nez, pour ne pas dire plus, au pouvoir en place.
Oui, parce que l'affirmation de son athéisme, il ne s'attaque pas seulement aux représentations des différentes religions, et de toutes les religions, d'ailleurs, j'y insiste. Il s'attaque aussi, son désir, c'est de déraciner en l'homme ce qui permet cette sorte de servitude volontaire qui fait que on va accepter non seulement les religions mais les lois au détriment des passions. Et si il faut aussi rappeler que Sade est un des premiers adversaires de la peine de mort, ce qui n'est pas rien.
Et
non
ça
plus.
C'est rappelé effectivement dans l'exposition. Vraiment c'était un précurseur hein. C'est un peu moi ce que je retiens de cette émission, c'est-à-dire il était totalement en avance sur son temps, Benjamin Lazare.
Ah oui et dans son expression, dans son style aussi, qu'on lit dans ses œuvres, mais aussi dans ses lettres. Et c'est pour ça que on a déjà eu l'occasion de lire Justine, Juliette, les 120 journées, mais on va consacrer une soirée le 14 décembre prochain au style très particulier et extrêmement vivant de Sade dans ses lettres adressées notamment à sa femme, que je vais avoir le plaisir de lire entouré de Pierre Vial et Michel Faux.
Voilà, donc il y a effectivement du beau monde dans ce programme de lecture au Musée d'Orsay. Est-ce que finalement, Annie Lebrun, c'est pas la vision de la femme de Sade qui est le plus datée aujourd'hui, qui est peut-être la moins contemporaine possible, ou est-ce que c'est un cliché que de dire ça ?
La vision de la femme
oui,
de
il
Sade...
Était pas,
ça...
Il n'était pas féministe, Sade. On est d'accord.
Je ne dirais pas ça.
Ah, alors expliquez-nous, parce que là, je pense que ça va surprendre beaucoup de gens. Alors expliquez-nous.
Parce que s'il est farouchement s'il est même déchaîné contre les rôles traditionnels qui ont été accordés aux femmes, il n'empêche que le personnage le plus libre qu'il invente, c'est quand même un personnage de femme, c'est Juliette. Et Juliette est un roman...
Qui s'oppose à Justine, hein, c'est un petit peu...
Qui s'oppose complètement à Justine. Et Juliette, c'est un roman de formation au cours duquel... Ce personnage féminin, il choisit un personnage féminin justement parce que à l'époque, par la nature, il y a une détermination et des invariants qui pèsent sur la condition des femmes, et aussi de façon sociale. Or, tout le travail de Juliette, ça va être de se débarrasser de différents rôles sociaux qui ont été attribués aux femmes. Et là va commencer l'invention d'un nouveau personnage. Et c'est aussi une histoire emblématique de ce qui fait encore l'actualité de Sade et cette sorte de fascination qu'il peut exercer, dans la mesure où c'est quelqu'un qui se débarrasse de toutes les idées, de tous les présupposés sociaux, religieux, éthiques, et qui, dans sa façon de penser qui a été évoquée par Benjamin, arrive à nous aider à se débarrasser de toutes les formes d'idéologie qui sont autant de béquilles qui, pour nous essayer de ne pas voir ce à quoi nous sommes affrontés et de ne pas voir le néant sur lequel nous avançons.
Merci beaucoup à tous les deux, Annie Lebrun et Benjamin Lazare. L'exposition Sade, attaquer le soleil, c'est jusqu'au 25 janvier 2015 au musée d'Orsay. Prochain rendez-vous lecture, Benjamin Lazare.
Le 14 décembre à 16h avec Michel Faux, Pierre Vial.
Et puis aussi, je veux dire qu'il y a aussi, je crois, le 11 décembre, il y a une table ronde, c'est comment éditer Sade.
Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous est pris demain. C'est l'écrivain Frédéric Becbédé qui sera avec nous pour son roman Una et Salinger, paru chez Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.